Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Abdelaziz Bouteflika a démissionné hier soir. Il n'est plus président de l'Algérie après 20 ans de pouvoir. Nous y reviendrons dans un instant. Nous nous intéresserons aussi dans ce journal aux politiques pour lutter contre la précarité en Europe. Le continent compte au moins 700 000 sans-abri, selon un rapport qui est publié ce matin par deux fondations. Et puis dans cette édition, retour sur le grand débat organisé hier à l'Assemblée nationale. Il y avait peu de participants et beaucoup de mécontents. Abdelaziz Bouteflika n'est donc plus le président de l'Algérie ce matin. Une décision pour contribuer à l'apaisement des cœurs et des esprits de ses compatriotes, voilà ce que dit le texte. Âgé de 82 ans, affaibli par un AVC il y a 6 ans, Abdelaziz Bouteflika a remis hier soir sa lettre de démission au Conseil constitutionnel algérien, Leïla Berhato.
Les images ont été diffusées à la télévision officielle vers 22h30. Abdelaziz Bouteflika, assis sur son fauteuil roulant et très affaibli, est entouré de Abdelkader Ben Salah, le président du Conseil de la Nation, et de Tayeb Belaïz, le président du Conseil constitutionnel, à qui le président remet un document, sa lettre de démission. C'est l'image qu'il fallait pour prouver que l'annonce faite un peu plus tôt dans la soirée était bien vraie. Des rassemblements se sont alors formés dans différentes villes du pays. À Alger, dans le centre-ville, des centaines de personnes se sont réunies et chantaient encore au milieu de la nuit. Pour ces Algériens, il y a à la fois beaucoup de joie et de gravité. Certains estiment que ce n'est qu'une première étape. Le slogan, c'est « Il faut qu'ils partent tous ». Possible donc que cette démission précipitée par les dernières annonces de l'armée ne suffise pas à calmer la contestation, car désormais c'est un proche du président algérien Abdelkader Ben Salah, 78 ans, à la tête du Sénat algérien depuis 17 ans, qui prend les rênes du pays et qui doit assurer, selon ce que prévoit la Constitution, l'organisation d'élections dans 90 jours.
Des élections dans 3 mois ou bien la mise en place d'une assemblée constituante, rien n'est encore tranché. La page Bouteflika se tourne donc officiellement en ce début du mois d'avril. La page Boutef, comme l'appellent familièrement ses compatriotes. Il détient le record de longévité à la tête de l'État algérien. Retour ce matin avec Christian Chesneau sur 20 ans de pouvoir.
Abdelaziz Bouteflika appartient à la génération de l'indépendance, celle des maquisards du FLN. À l'âge de 24 ans, il est ministre de la Jeunesse et des Sports dans le premier gouvernement du président Ben Bella, puis ministre des Affaires étrangères. Pendant 16 ans, il incarne le visage de la diplomatie algérienne, fer de lance des pays non alignés. Après une longue traversée du désert, il accède à la magistrature suprême en 1999. Avec le feu vert de l'armée, c'est lui qui tourne la page de la décennie noire du terrorisme islamiste. Grâce à la rente pétrolière, Abdelaziz Bouteflika lance un programme de grands travaux, notamment de construction de logements, mais le système clientéliste qu'il met en place indispose les Algériens. Les séquelles de son AVC en 2013 vont le handicaper de plus en plus. En 2014, pour sa réélection à un quatrième mandat, il est déjà très affaibli. Face à la pression de la rue et de l'armée, Abdelaziz Bouteflika jette l'éponge. Le cinquième mandat est son combat de trop.
Et place maintenant à une transition politique, une transition démocratique, espère la diplomatie française. Paris, qui se disait hier soir confiant. L'OTAN fête ses 70 ans cette semaine à Washington, sur fond de différends financiers entre Européens et Américains. Différends qui, pour l'occasion, pourraient s'atténuer un petit peu, puisqu'hier, le président américain Donald Trump est allé jusqu'à se féliciter de, je cite, « la montée en flèche des dépenses militaires des pays membres de l'Alliance Atlantique ». Les États-Unis qui font pression donc quand même sur l'Alliance militaire et sur les marchés commerciaux. L'Organisation mondiale du commerce publiée hier ses prévisions pour la croissance mondiale. Elle devrait ralentir cette année, en 2019, à 2,6% de croissance contre 3% l'année dernière et 4,7% il y a 2 ans. Le chef de l'OMC impute cette baisse en partie aux tensions commerciales et à l'accroissement de l'incertitude. Mais Sébastien Jean, directeur du Centre d'études prospectives et d'information internationale, est lui moins alarmiste. Il pointe des raisons plus structurelles que politiques pour cette baisse de croissance.
Il me semble que ce qu'on observe, c'est avant tout que depuis la crise, le commerce mondial n'a jamais retrouvé le dynamisme qu'il avait avant la crise, où il évoluait 2 fois plus vite, il croissait 2 fois plus vite que le revenu mondial. En revanche, on n'a pas non plus observé un reflux significatif. Il n'y a pas de fermeture significative. Il y a des menaces, il y a des interrogations, il y a une petite inflexion, si vous voulez, mais il n'y a pas de tendance régulière à la fermeture au niveau mondial. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé de mesures protectionnistes américaines l'an dernier. On a néanmoins dit qu'en un an, la Chine a baissé le niveau moyen des droits de douane qu'elle applique sur ses importations de 9,8% en moyenne à 7,5% en un an. Donc c'est une baisse assez significative. Et c'est une façon de dire aussi qu'il ne faut pas surinterpréter la portée de la politique commerciale de l'Amérique de Donald Trump, parce que beaucoup de pays dans le monde, et y compris des pays importants, n'ont pas l'intention de suivre et ne sont pas en train de suivre cette même tendance.
Des propos recueillis par Marie Viennot. La première ministre britannique tend la main à son opposition. Theresa May va discuter avec le travailliste Jeremy Corbyn pour tenter de trouver une solution sur le Brexit. Elle annonçait hier soir son intention de demander à Bruxelles un nouveau report au moins jusqu'au 22 mai. À 6h35 sur France Culture, penchons-nous à présent sur ce rapport présenté aujourd'hui sur le mal-logement en Europe et plus particulièrement sur les personnes sans-abri. Selon la Fondation Abbé Pierre et la Fédération européenne des associations qui travaillent avec les sans-abri, 700 000 personnes en Europe n'ont pas de domicile. Les associations dénoncent ensemble la baisse de l'ambition européenne à ce sujet et évoquent un exemple à suivre, celui de la Finlande. À Helsinki, les abris de nuit comptaient en 1985 plus de 2000 places, seulement 52 en 2016, car le nombre de sans-abri a baissé. C'est ce que nous explique au micro d'Audrey Dumain Sarah Coupchou. Elle est chargée d'études Europe à la Fondation Abbé Pierre.
La Finlande a décidé dans la fin des années 80 de reloger un maximum de personnes. Donc ils ont utilisé ce concept qui s'appelle Housing First au départ, qui consiste à proposer à la personne un logement, qui est son logement, et à lui proposer parallèlement de l'accompagner pour résoudre les difficultés qui sont les siennes au quotidien. Donc ils ont établi le nombre de logements dont ils avaient besoin, ils ont construit énormément de logements sociaux. C'est mettre la personne dans un logement, mais aussi au centre de l'accompagnement, et lui permettre de pouvoir se reconstruire. L'idée, c'est vraiment d'éviter notamment les coûts annexes, c'est-à-dire qu'une personne qui est à la rue, c'est une personne qui ne prend pas soin d'elle et donc qui va générer à un moment donné des frais de santé plus importants. C'est aussi une personne qui peut être amenée à avoir des débats avec la justice. Tous ces frais-là sont évités, in fine, parce que la personne a un lien social avec les équipes qui l'accompagnent. C'est aussi recréer du lien avec la famille, recréer un réseau social, etc. Et évidemment, si possible, retourner vers l'emploi.
Alors en France, on est encore loin de ce programme finlandais. L'année dernière, 566 personnes sont décédées dans la rue. Un hommage leur était rendu hier à Paris. Et dans la foule, Maud Calves a rencontré Hervé, 47 ans. Lui a quitté la rue il y a un an, mais il a vécu cette problématique de très près.
En 23 ans de rue, j'ai perdu 22 copains de rue, copains et copines, des amis. La famille, comme on dit. Tu sais que t'as perdu un copain, du jour au lendemain, tu le vois plus et t'apprends qu'il est mort à Cochin ou à la Pité Salpêtrière d'une connerie. Ça peut être, on doit l'amputer d'un pied et puis ça se passe mal et boum. Eh bah oui, forcément, toi, tu ramènes ça à toi, tu te dis, mais ça peut m'arriver aussi, quoi.
Ça veut dire quoi, mourir de la rue?
Bah, tu meurs dans la rue, tu meurs de froid, tu peux mourir de chaud aussi l'été. Tu peux mourir de tes addictions, tu peux mourir de suicide, tu peux mourir aussi des conséquences après la rue. Ça va très très vite, parce qu'on ne se soigne pas dans la rue, on n'a pas tous les suivis médicaux, etc. Et puis aussi, ça peut être un règlement de compte. La question, elle n'est pas là en fait. C'est pas la façon dont on meurt dans la rue, c'est de mourir en France, encore en 2019, d'une vie à la rue. Je suis désolé, dans un pays comme la France, en plus là, on est à Paris, soi-disant la plus belle ville du monde, bah, la sale gueule aujourd'hui, je trouve.
C'était le témoignage d'Hervé qui a passé 23 ans dans la rue à Paris. Il mène depuis plusieurs mois maintenant la concertation sur la réforme des retraites. Le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye met la pression sur le gouvernement. Sans clarification sur le recul de l'âge légal de la retraite, il pourrait en tirer les conséquences, dit-il, c'est-à-dire quitter son poste. L'Assemblée nationale va poursuivre aujourd'hui ses échanges sur le grand débat national. Discussion débutée hier dans un hémicycle très peu rempli. Pas plus de 70 députés environ étaient présents au plus fort du débat hier. Mais ceux qui étaient là se sont quand même expliqués, Anne Fauquemberg.
Au Rassemblement national, il y a ceux qui ne souhaitent pas s'investir pour un temps de parole aussi réduit, faute de groupe. Sébastien Chenu, par exemple, qui dénonce les 9 petites minutes attribuées à son parti.
Marine Le Pen, royalement, aura la possibilité d'exprimer au nom des millions d'électeurs du Rassemblement national nos positions en 5 minutes. Donc on voit bien que ce grand débat à l'Assemblée nationale est un mensonge, est une pitrerie.
D'autres dénoncent au contraire un manque d'organisation pour ce grand débat, comme le député insoumis Hugo Bernalicis. ici.
J'étais en audition toute l'après-midi sur l'aide juridictionnelle, autre sujet qui viendra à la fin de l'année 2019. Il y avait des auditions. Je suis allé plutôt là-bas que dans le débat sur le grand débat, parce que ça donne une image déplorable. Mais en réalité, quand vous savez que vous êtes là en plante verte pour un grand débat et que rien va en ressortir, ben vous préférez faire des choses plus utiles, comme des auditions.
Chez les Républicains, Daniel Fasquelle est bien l'un des seuls à défendre ce débat sans vote.
J'ai entendu des députés boycotter certaines réunions, se plaindre, à juste titre d'ailleurs, de ce que les députés n'avaient pas la parole dans les réunions organisées par le président de la République. On nous donne enfin la parole, à charge pour nous de la prendre, en espérant d'être évidemment entendu, écouté par le président de la République, ce dont, très franchement, je doute pour le moment.
Et c'est vrai que ce débat à l'Assemblée nationale arrive un peu tard, alors que l'essentiel des contributions termine d'être synthétisé pour une restitution lundi prochain.
Le temps très rapidement de ce mercredi qui débute, il s'annonce plus frais et agité avec des orages venus de la Bretagne, comptez 7 degrés ce matin à Paris, 10 à Lyon, 13 à Marseille.